Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai acheté il y a quelque temps ceci. Alors, c'est une petite pièce de bricolage, une petite pâte d'assemblage, telle qu'on en trouve dans tous les bons magasins de bricolage. Et alors, lorsque vous achetez ce genre de choses et puis que vous commencez à l'utiliser, il est plus long de décoller l'étiquette que de planter les quatre vis qui vont dedans. Et non, c'est vraiment très difficile. On la décolle par morceaux, il en reste, etc. Ça peut prendre pas mal de temps, c'est assez pénible. Et pourquoi ils mettent une étiquette comme ça? Bien sûr, c'est pour lui donner une valeur, c'est pour la classifier, la répertorier. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils font une étiquette si difficile à décoller? Tout simplement pour pas qu'ils me prennent la fantaisie de la prendre et de la mettre pour acheter ça. C'est-à-dire d'avoir ça au prix de ça. Voilà pourquoi cette étiquette est si difficile à décoller. Et les étiquettes, c'est bien difficile de s'en débarrasser. Et quand vous croyez donc y être parvenu, parce que là, il y a un petit bout, mais il reste encore tout un tas de trucs là qu'il faut gratter patiemment jusqu'à ce que vous arriviez à tout enlever. Et même encore, quand il n'y a plus de papier, ça reste un peu poisseux. Il y a même la colle qui reste dessus, la poussière vient se coller dessus, c'est pas propre, voilà. Il est comme ça, il a toujours été comme ça. On traîne souvent sur le dos des étiquettes dont on a du mal à se débarrasser. Et souvent, on colle sur le dos des autres des étiquettes dont on a du mal à les débarrasser dans notre esprit. On appréhende bien souvent nos semblables au travers de l'étiquette qu'on leur a posée. Et quand bien même on tente de l'enlever, il reste toujours un peu de colle pour nous rappeler que, oui, d'accord, on enlevait l'étiquette, mais auparavant, il y avait bien quand même une étiquette qui était posée là. Et puis, il y a aussi les erreurs d'étiquetage. On a vécu un exemple très récemment à la maison. Chantal avait acheté des plants de tomates, la belle tomate marmande, la grosse tomate comme ça. Mais quand les fruits ont commencé à pousser, c'était des petites grappes de tomates cerises qui sont sorties. Et côté poivrons verts, qu'on nous a vendus pour être des poivrons verts, ce sont des piments rouges. Pas tous, parce qu'il y avait aussi des poivrons verts. Mais voilà. Mais au départ, rien ne distinguait ces plants. Aussi bien les tomates, les marmandes que les cerises, ça paraissait être la même chose. Et les poivrons rouges, les poivrons verts et les piments rouges, peut-être un œil averti aurait trouvé que ce n'était pas la même chose. Mais en ce qui nous concerne, on a fait confiance aux étiquettes et on a eu tort. Jésus avait bien raison en disant « c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez », car manifestement, il y avait confusion sur les étiquettes chez le maraîcher qui les avait vendues à Chantal. Alors, comment pourrais-je enlever ce qui me reste d'étiquette sur cette pièce purée? C'est difficile, ça, on n'y arrive pas. Comment est-ce que je peux l'enlever sans laisser de traces? Moi, je vais penser à quelque chose, peut-être en la trempant dans l'eau bouillante, qu'à force, la colle et le papier arriveraient à se dissoudre et ça partirait. Mais seulement voilà, je ne vais pas mettre mon frère à bouillir. Pourtant, cela, Dieu s'en charge. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui se passe dans la vie chrétienne? Les diverses situations que nous vivons, les diverses épreuves que nous traversons, et aussi les échecs que nous essuyons, tout cela, est-ce que ça ne contribue pas à nous transformer en profondeur et à décoller cette étiquette périmée? 1 Pierre 4, au verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Lorsque Pierre parle de la fournaise, cela a une signification très précise et très concrète dans l'esprit des Juifs de son temps. Parce que dans le sacrifice, les prêtres disposaient de sorte, je ne sais pas le nom, mais de longues lances avec un bout crochu pour sans cesse prendre les animaux, les ramener sur le grill, parce qu'ils avaient tendance, ces animaux, sous l'effet de la chaleur qui les consumait, à glisser. La graisse fondait et les animaux, offerts pour le sacrifice, glissaient les uns sur les autres. Donc nous ne pouvons pas mettre notre frère à bouillir, mais Dieu se charge, lui, de nous remettre, de le remettre sur le grill. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a quelque temps, à la télé, il y avait une pub, je crois que c'était pour un yaourt, qui disait ceci: ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Pour la bonne blague, on a déjà eu une blague ce matin, je peux vous en dire une autre. Chantal, la version selon Chantal, c'est le fromage que tu mets à l'intérieur se voit de l'extérieur. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit de l'extérieur. Et j'ai trouvé ce slogan foncièrement biblique. Pour yaourt, je ne sais pas, mais pour Dieu, c'est évident. Ce qu'il fait à l'intérieur de nous se voit à l'extérieur. Il n'est pas concevable que l'œuvre de Dieu en nous n'ait pas quelque incidence dans notre vision des choses, dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos comportements, dans la manière avec laquelle nous appréhendons les diverses circonstances de la vie. Et on peut prendre une image, lorsqu'on regarde une vieille photo de nous, bien sûr, et on se rend compte à quel point on a changé. Et pourtant, au quotidien, ces changements sont imperceptibles. Mais c'est une somme qui s'accumule jour après jour pour aboutir à ce que nous avons sous les yeux. Ça ne se remarque pas. Mais après de nombreuses années, voilà, le fait est là, je ne ressemble plus à celui que j'étais alors. Il y a 2 ans, Chantal et moi avons retrouvé une amie que nous avions perdue de vue depuis 25 ans. Et très franchement, aussi bien elle que nous, on se serait croisés dans la rue, on ne se serait pas reconnus. Hein. 25 ans, ça vous transforme. Il est clair que pour le corps, évidemment, ça ne va pas dans le sens du mieux. Quoi qu'il y ait des exceptions, Georges Clounet semble avoir un certain charme croissant auprès des dames. Et pour ma part, moi je trouve que Christine Lagarde est très rayonnante de plus en plus. Mais ça, ce n'est pas la règle générale. Et Paul nous dit que pour ce qui est de l'esprit, il se renouvelle de jour en jour. Une citation de Mark Twain, alors j'aime beaucoup Mark Twain, et en lisant plusieurs de ses citations hier, j'en ai trouvé des formidables. Quoi. Je pense que vous n'avez pas fini de m'entendre parler des citations de Mark Twain. Mark Twain disait ceci: la personne que je préfère, c'est mon tailleur, parce qu'il est toujours prêt à reprendre mes mesures. Toujours prêt à reprendre mes mesures. Tout un programme. De quoi donner le tournis à ceux qui veulent nous ficher, nous encoder, nous coller une étiquette dans le dos. Si je réalise, plus ou moins bien, mais on a une certaine conscience que Dieu me renouvelle de jour en jour, il me faut aussi considérer que c'est aussi le cas de mon frère, de ma sœur, et que peut-être l'étiquette que j'ai placée sur son dos n'est plus tout à fait d'actualité. On a beau se ficher éperdument des regards des autres, c'est quand même désespérant de constater qu'on vous prête des opinions, des comportements, des réactions qui étaient les vôtres il y a 5 ans, 10 ans. Et il est frustrant de constater que les changements que Dieu a opérés en vous, bien que visibles de l'extérieur, si tant est qu'on y regarde un tout petit peu, ne sont pas toujours pris en compte. L'ami dont je vous parlais tout à l'heure, que nous avons revu il y a 2 ans après un grand intervalle de 25 ans, lorsque nous l'avons perdue de vue, elle sortait de l'adolescence. Elle était instable, mal dans sa peau, angoissée, comme paumée dans la vie. Mais Dieu l'a mise sur le grill. Et d'une manière particulièrement brûlante, alors qu'elle était mariée à un chrétien qui lui apportait tout ce dont elle pouvait rêver, qui lui avait apporté stabilité. Elle était mère d'un enfant, enceinte d'un deuxième. Dieu a repris son mari dans des circonstances tragiques. Ses parents, qui étaient pourtant chrétiens, ont divorcé. Et c'est une chrétienne incroyablement solide que nous avons retrouvée, marquée, c'est sûr, mais profondément apaisée et confiante en son Seigneur. Et ce n'était pas du tout la personne fragile et paumée que nous avions connue. Mais là, c'était facile parce qu'on avait sous nos yeux, il y avait 25 ans qui s'étaient passés, et on avait sous nos yeux deux photos. La photo de celle d'il y a 25 ans et la photo d'aujourd'hui. Et quand on les plaçait les unes à côté de l'autre, la différence sautait aux yeux. Et il est probable que le contraste n'aurait pas été aussi saisissant si nous avions côtoyé cette amie les 25 ans durant. En 25 ans, elle avait changé, c'était évident. Mais deuxième point, en 25 ans, nos yeux avaient changé. Notre regard sur elle avait changé. Et pour m'en convaincre, je n'ai qu'à comparer le regard que j'ai aujourd'hui sur ce qu'elle était il y a 25 ans avec le regard que je portais sur elle alors. Et je vois des différences et des différences sensibles. Je parle de la même personne, la personne d'il y a 25 ans, et la manière dont je la regardais il y a 25 ans et la manière dont je la vois aujourd'hui, il y a des différences. Des jugements que je portais, des impatiences que je manifestais, alors qu'aujourd'hui, je vois bien plus clairement qu'il lui aurait été très difficile de faire mieux avec les cartes qu'elle avait en main. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas toujours à la hauteur de ce que tu attends de moi. Je te déçois si souvent. Mes progrès sont lents, ou parfois rapides, mais je reviens souvent en arrière. Mais considère, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, que Dieu est à l'œuvre en moi. Je t'en prie, reprends mes mesures. Donne-moi du temps. Sois patient envers moi. Je marche avec toi, à tes côtés, sur le même chemin que toi. Mais l'étiquette, ce n'est pas seulement celle que j'ai collée sur le dos des autres. C'est aussi celle que je porte dans le dos. Celle qui m'ont collée, parfois à tort, mais pas toujours. Dans ce cas, on peut dire que c'est avec mon aide qu'ils l'ont collée, plus ou moins volontaire. La réputation juste, c'est souvent celle qu'on s'est faite. Et grâce à cette étiquette qui nous colle à la peau, nos propos d'aujourd'hui sont interprétés à la lumière de ceux d'hier. Nos actions sont pesées à l'aune de notre réputation, bonne ou mauvaise. Et s'il est déjà difficile de décoder l'étiquette du dos du voisin, c'est encore plus difficile de le faire dans le mien. Mes mains n'ont pas accès facile à cette zone. Elles ne sont pas aptes à intervenir là, sur mon dos. Et surtout, il y a un élément que je ne peux pas maîtriser, qui ne m'appartient pas. C'est le désir de l'autre de reprendre mes mesures. Je vais devoir lui faire un peu confiance. Et surtout, lui laisser du temps pour qu'il prenne conscience que l'étiquette est périmée. Je devrais encore peut-être supporter patiemment cette étiquette qui ne me décrit plus tel que je suis aujourd'hui. Mais si je m'estime libéré et à juste titre, renouvelé par l'Esprit de Dieu en moi et à juste titre, il me faut peut-être considérer que son regard sur moi a encore besoin d'être mis à jour, updaté, comme on dit en informatique, d'autant plus si je l'ai blessé ou inquiété. Nous avons dans le livre des Actes quelques récits où l'on voit des croyants en prise avec cette question. Et donc, Actes au chapitre 9. À partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Ananias, cet homme qui s'appelait Ananias et dont on parle immédiatement après la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a eu une vision d'un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter ton nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Il faut bien se replacer dans le contexte dans lequel se trouve Ananias pour bien comprendre ce qu'il peut ressentir à cette annonce. Si vous êtes un disciple de Jésus à cette époque et que vous habitez à moins de 200 km de Jérusalem, disons 200 km, c'est une estimation que j'ai faite, qui vaut ce qu'elle vaut, la seule évocation du nom de Saul suffit à vous glacer d'effroi. La réputation de cet homme qui est annoncé à Damas, qui s'approche sur le chemin de Damas, est terrifiante pour les croyants de cette ville. Son arrivée prochaine annonce une grande persécution. Et lorsque, dans cette vision, Dieu parle à Ananias d'aller à la rencontre de cet homme, comme disait un humoriste, ses yeux n'en croient pas leurs oreilles. Et il a du mal avec cette idée. « Seigneur, je sais de source sûre que cet homme est investi pour détruire ceux qui invoquent ton nom. » Ce n'est pas avec un homme qu'il discute, il discute avec Dieu. Preuve de sa sincérité. Je sais de source sûre que cet homme est investi pour détruire ceux qui invoquent ton nom. Et ça, pour un juif, c'est l'argument suprême. On peut nous détruire, nous les croyants, mais il ne faut pas que le nom de l'Éternel soit blasphémé. Cette idée est assez courante dans l'Ancien Testament, dans plusieurs prières, notamment dans la prière de Daniel. D'accord, nous avons péché, et d'accord, nous méritons la mort, d'accord, nous méritons la destruction, mais ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Cet argument, Ananias tente de le faire valoir. Il a vraiment du mal à admettre que cet homme, Saul, puisse avoir aussi radicalement changé. Il obéit. Aussitôt, il est dit, il obéit, mais on peut imaginer son angoisse lorsqu'il se rend vers la maison de Judas à la rencontre de Saul. Et pourtant, sous ses yeux, en quelques jours, les fruits sont là. Fin du verset 19, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Les fruits sont là. Et leurs conséquences immédiatement derrière, verset 23, « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertent pour le tuer. » On parle de Saul. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertent pour le tuer. Maintenant, c'est lui qui est exposé. Et pourtant, verset 26, ça ne suffit pas à tout le monde. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Ça ne suffit pas à tout le monde, tout ce qu'il voit. Il faut encore du temps aux disciples pour accepter que Saul n'est plus le même homme. Pour lui enlever cette étiquette, respirant la menace et le meurtre, c'est ce qui est dit au début du chapitre 9, Saul respirait encore la menace et le meurtre lorsqu'il se préparait à venir à Damas. Et dans son cas, dans le cas de Saul, ce changement d'étiquette sera attesté par un changement de nom. De Saul, il deviendra Paul, mais seulement quelques années plus tard. Si la transformation de Saul en Paul a été fulgurante lors de sa conversion, il lui a fallu du temps pour qu'il devienne Paul, aux yeux de ses disciples, aux yeux des disciples de Jésus. Et j'imagine qu'il a continué, partout où il allait, à inspirer la crainte à cause de son passé. Et il a bien dû en concevoir quelques frustrations. Bien que sa conversion ait été fulgurante, et bien qu'il était bouillant et désireux de servir le Seigneur, plusieurs années ont passé avant qu'il n'entame les voyages missionnaires auxquels il était appelé. Et c'est seulement à partir de cet instant qu'il devient Paul. Il a fallu du temps pour que Saul devienne Paul, et il a fallu que Paul laisse du temps à ses frères pour le voir comme Paul et non comme Saul. On était dans un vrai traumatisme. Ce n'est pas toujours comme ça dans les relations entre nous, heureusement. J'ai eu un accident de voiture pas très grave il y a une quinzaine d'années. Une voiture est passée devant moi comme ça, grillé un stop et boum. Et alors, c'est tout à coup, tout va bien. Puis dans la seconde suivante, vous êtes dans un schéma de violence, d'imprévu. Vous basculez dans un autre monde. Et cette seconde pendant laquelle a duré l'accident, pendant lequel ça a tapé, puis bon, sans gravité. Après, dans les semaines et les mois qui ont suivi, chaque fois qu'une voiture s'approchait à un stop, cette voiture, cette vision revenait de la voiture, etc. C'est ce qu'on appelle un traumatisme, c'est-à-dire que, je ne saurais pas en expliquer le mécanisme physiologique, mais c'est quelque chose qui suffit à marquer, à laisser une empreinte dans le cerveau pour quelque temps. Et c'est une donnée physiologique incontournable que lorsqu'il y a traumatisme, eh bien, il faut un certain temps, et même lorsqu'il s'agit d'un traumatisme dû à une relation, eh bien, même le pardon entier, plein et entier, ne l'annule pas tout de suite. Il faut laisser du temps à mon frère pour reprendre mes mesures si je l'ai blessé, si je l'ai inquiété. Mon frère, ma sœur, ne m'en veux pas si c'est encore difficile pour moi. Tu te sens prêt pour un nouveau départ et tu voudrais aller de l'avant avec moi, mais je t'en prie, sois patient et donne-moi un peu de temps pour reprendre tes mesures avant de marcher de nouveau à tes côtés. Mon tailleur est toujours prêt à reprendre mes mesures et moi, je suis prêt à attendre mon tour dans sa salle d'attente et à lever les bras pour qu'il soit en mesure de reprendre mes mesures, pour le laisser faire reprendre mes mesures. Actes chapitre 15, un récit que nous connaissons bien, versets 36 à 41. Le duo Paul et Barnabas a commencé a déjà fonctionné. Et quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait aussi emmener Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il partit pour la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Récit que nous connaissons bien et qui nous parle d'une rupture qui se produit suite à un différend entre Paul et Barnabas à propos du cousin de Barnabas. On sait par un autre texte qu'il s'agit du cousin de Barnabas, un certain Jean, surnommé Marc. Alors, je dis un certain parce que ce Jean surnommé Marc, à tout le moins, deviendra célèbre puisqu'il s'agit du Marc, auteur de l'évangile du même nom. Mais pour l'heure, ce Marc n'est pas dans les petits papiers de Paul, et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'il lui reproche ? Sans doute, il le trouve trop instable, craignant qu'on ne puisse pas compter sur lui. C'est un peu ce que je perçois à travers ces lignes. Bref, pour un caractère entier comme celui de Paul, pas question de s'embarrasser avec lui, il ne sera d'aucune utilité. Sans doute je caricature un peu, mais ça ressemble bien à une étiquette qui vient d'arriver sur le dos de Marc. Et cependant, si vous voulez tourner vos Bibles en Colossiens au chapitre 4 et au verset 10, Colossiens chapitre 4, verset 10, Aristarque, mon compagnon de captivité. Alors là, Paul se trouve emprisonné lors de sa première captivité à Rome. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, donc le fameux Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Tiens, il est de nouveau là, dans l'entourage de Paul. Mais surtout, si vous voulez tourner un peu plus loin encore, en 2 Timothée, au chapitre 4, et au verset 11. Et là, on est lors du deuxième emprisonnement de Paul, alors qu'il tient son départ, je parle de son départ définitif de cette terre, comme imminent. Voici ce que Paul dit, « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Un peu plus loin, il dit, « Tous m'ont abandonné. » Donc il ne reste auprès de Paul en ces instants que Luc et Marc. « Il m'est utile pour le ministère. » Paul, qui quelques années plus tôt ne pouvait pas concevoir de le prendre avec lui, ne serait-ce que pour porter le sac à dos. Maintenant, réclame sa présence, et non seulement sa présence, mais sa compétence auprès de lui dans son ministère. De son côté, Marc aurait pu dire, écoute mon ami, tout Paul que tu es, et malgré la grande réputation que tu as, tu n'as pas voulu de moi quand tu disposais de toute ta force, et maintenant que tu es vieux, seul et en prison, tu as besoin de moi, débrouille-toi tout seul. Mais manifestement, il n'en est rien, puisque Marc, on l'a dit, on l'a vu, est l'un des seuls avec Luc qui se tiennent encore auprès de Paul, les autres l'ayant tous abandonné. Paul a repris les mesures de Marc, et Marc lui a laissé le temps et l'accès pour le faire. Les étiquettes ont volé et ses frères ont pu de nouveau se retrouver et collaborer. Cet été, nous étions, Chantal et moi, et on a eu le plaisir d'y retrouver Pauline et Nicolas dans un camp de vacances avec Vie et Famille dans les Pyrénées. Et Gérard Roireau, donc, qui animait ce camp, a beaucoup commenté le thème de la grâce qui agit au sein du couple, de la famille et de l'Église. Et il a cité Martin Luther, qui compare la grâce à un immense baldaquin sous lequel le croyant est à l'abri en tout temps et en tout lieu qu'il se trouve. Le baldaquin, vous le savez, c'est cette espèce de chapiteau qu'on peut placer sur un lit, qu'on plaçait à l'époque sur le lit des personnes importantes. Et aussi, il existait sous une forme mobile qu'on portait au-dessus des personnes importantes, les dignitaires, pour les protéger des rayons du soleil, de la pluie, peut-être des œufs qu'on aurait pu leur lancer sur la figure. Voilà, en tout cas, quelque chose qui sous lequel ils étaient à l'abri. Nous sommes tous des graciés et nous évoluons tous à chaque instant sur le baladin de la grâce qui nous accompagne en tout lieu. Nous vivons, nous mangeons, nous dormons, nous rendons notre culte à Dieu, nous sommes en prise les uns avec les autres, tout cela sous le baldaquin de la grâce. Le diable peut nous cracher dessus et là, je reste poli parce que l'expression de Luther était bien plus Imaginez que cela ne nous atteint pas sous le baldaquin de la grâce. Alors, écoutez, si vous êtes d'accord, voilà une étiquette que je veux bien porter. Gracier. Non seulement je veux bien, mais je la revendique. Et celle-là, personne ne pourra la décoller. Gracier. Et cette étiquette, je vais la placer non pas sur mon dos, où je ne pourrai pas la voir, où je ne pourrai pas la lire, mais je vais la placer sur mon front. Et là, je pourrai la voir chaque matin dans la glace. Tous, vous pourrez la voir. Nous avons beaucoup, ce matin, des prières ont été faites dans le sens de la grâce et je m'en suis vraiment réjoui. Et nous avons chanté des chants qui reprenaient le thème de la grâce. Ce qui me réjouit le plus ce matin, c'est que cette étiquette, je pourrais la voir se refléter dans votre regard. Chantons « Change mon cœur, Seigneur » et purifie-moi.